France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Avant, les horaires étaient parfois élastiques et c'est comme ça. Avant, on pouvait être dérangé le week-end et c'est la vie. Avant, on se levait à l'aube un jour sur deux ou on terminait à pas d'heure. Bah oui, mais c'est le principe du métier, madame. Ça, c'était avant. Depuis, il y a eu le grand confinement et puis les confinements moins stricts, mais les couvre-feux. Depuis, il y a eu une flexibilité indispensable pour jongler avec moins de transport, moins d'heures d'ouverture. Depuis, il y a des changements que chacun a dû subir avant de se dire, mais c'était peut-être pas si mal comme ça, en fait. Les entreprises, depuis que la reprise économique est là, ont du mal à recruter. Bien sûr, on parle salaire, mais pas que ça. Les cadres, les salariés de bureau, entendent imposer désormais que les jours de télétravail soient ceux qu'ils ont choisis. Ils veulent une qualité de vie au travail qu'ils n'avaient pas avant pour pouvoir travailler à un rythme qui semble mieux leur convenir. Les employés non qualifiés ne veulent pas d'horaire de 8h à 11h le matin et puis de 18h à 22h le soir. Au milieu, c'est vous qui vous débrouillez. Sinon, pour l'embauche, c'est non, même en CDI. Oui, même en CDI. Une étude de la DARES du mois de novembre, la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, dit que si les entreprises ont du mal à trouver du personnel, c'est parce que les conditions de travail sont mauvaises, 43%, ou les exigences de salaire trop élevées, 36%. Donc, pas seulement une question d'argent. Il est peut-être là, au fond, le monde d'après, faute de refaire le monde, justement. Les salariés sont devenus exigeants. Ils demandent aux entreprises de s'adapter à eux et pas l'inverse. C'est le téléphone sonne ce soir et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Dominique, vous êtes le premier. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir, Madame Sintès. Je suis un fidèle auditeur de France Inter. Je suis chef d'entreprise donc sur Toulouse et au Pays Basque, à Bayonne. J'ai deux laboratoires d'analyse en environnement. J'ai 15 salariés sur Toulouse et 6 au Pays Basque. Et je suis exactement dans cette problématique. J'ai du mal à recruter. Je mets entre 3 à 6 mois pour recruter du personnel. Dernièrement, au Pays Basque, j'ai dû faire venir une technicienne de Tunisie parce que je n'arrivais pas à recruter au Pays Basque. J'en revenais pas parce que je me suis dit que quand j'allais ouvrir mon laboratoire à Bayonne, j'allais avoir des centaines de CV. Impossible. Alors actuellement, c'est vrai qu'on est dans cette problématique où les jeunes demandent des salaires aberrants, ne veulent pas faire de reçus, ne veulent pas s'impliquer et demandent toujours plus. Ils ne veulent aucune responsabilité, des salaires exorbitants. Et même quand vous proposez, parce que moi je ne propose que des CDI, même en proposant des CDI, ils ne répondent même pas aux annonces. Donc je suis catastrophé parce que je voudrais moi développer mon activité et je ne peux plus. Mais je suis bloqué.
Est-ce que vous diriez, Dominique, qu'il y a un avant-après? Avant-après, c'est 18 mois, 2 ans qu'on vient de traverser, que vous avez vraiment vous
même
senti
avant, même avant. Mais moi je veux dire, je suis directeur de labo depuis plus de 25 ans. Ça fait bien 5 ou 6 ans que... Ils ne veulent, ils vivent pour les loisirs. C'est-à-dire que là, cette jeune génération, moi j'ai deux filles, une de 26 ans et une de 23 ans, elles sont là-dedans, dans une société de consommation où nous, à notre époque, alors peut-être qu'on n'avait pas raison, hein, je ne leur jette pas la pierre, parce que peut-être que nous, on vit pour notre travail, on s'implique, on est passionné, et eux, ils vivent pour leur passion, c'est-à-dire leur vie extra-professionnelle, et leur vie professionnelle, c'est juste un moyen d'avoir un peu d'argent pour profiter de leur vie en dehors de l'entreprise.
Mais est-ce qu'ils vous le disent, après je vous laisse
Est-ce qu'au moment de l'entretien,
c'est « oh là là, trop de boulot » ou « non, c'est pas dans ces conditions-là que » Qu'est-ce qu'ils vous disent?
Eh bien, oui, vous en demandez trop. Alors, ils travaillent, je vais pas faire le vieux réac, ils travaillent 7 heures par jour. Nous, déjà, c'était 8 heures et voire plus, parce que moi, j'étais cadre dans des entreprises avant. Mais même 7 heures, on dirait qu'on leur demande quelque chose d'insurmontable.
Dominique, merci beaucoup pour cette entrée en matière. On verra au fil de cette émission qui est vieux réac et qui ne l'est pas. Merci vraiment pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Benoît Serre est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes vice-président de la NDRH, l'Association Nationale des DRH. Et Julien Leclerc est là aussi, bonsoir.
Bonsoir Fabienne.
Vous êtes chef d'entreprise, Julien, vice-président du Centre des Jeunes Dirigeants. C'est vers vous que je vais me tourner d'abord. Est-ce que vous faites le même constat que Dominique? Est-ce que vous avez un avant-après? Est-ce qu'on vous pose des questions aujourd'hui en entretien que peut-être on ne vous posait pas avant?
Oui, alors j'entends évidemment ce que dit Dominique. Il y a beaucoup de souffrance derrière et qui est partagée par énormément de dirigeants d'entreprise, avec une grande tension du marché de l'emploi et dans des secteurs qui n'étaient pas forcément tendus avant. Donc oui, il y a un avant-après. Oui, on est plus challengé qu'avant. Après, c'est pas nouveau. Ça fait quand même quelques décennies que on est très challengé sur la quête de sens, sur l'épanouissement au travail, etc. Et puis je suis assez d'accord quand même avec la petite virgule qu'a mise Dominique sur le fait que c'est peut-être bien cette évolution-là.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'on n'est pas forcément formé pour. Après, là où je rejoins moins ce que dit Dominique, c'est que je vais citer un grand penseur qui dit « Toutes les générations disent que celle d'après fait n'importe quoi ».
Certes, oui.
C'est un chanteur qui s'appelle Orelsan. Et donc, bon, je pense qu'il y a quelques clichés sur le fait que non, tous les jeunes ne veulent pas ne pas travailler. Mmh. Mais c'est vrai qu'on est challengé de plus en plus et que le salaire, puisque c'est le sujet de votre émission.
Entre autres.
Le salaire est de moins en moins haut dans l'échelle des priorités et notamment, c'est vrai, chez les jeunes générations.
Benoît Serre, je vous posais la même question dans les mêmes termes. Est-ce que effectivement il y a un avant-après? On est plus exigeant aujourd'hui quand on cherche du boulot qu'on l'était avant, même pour un CDI d'ailleurs.
Moi, je crois qu'il y a un avant-après qui est lié à la pandémie, c'est-à-dire que toutes les conditions étaient réunies avant, sauf qu'elles ne s'exprimaient pas vraiment, et la pandémie a fait qu'elles se sont exprimées. Quant au salaire, moi j'observe quelque chose d'un tout petit peu différent, même si je souscris à ce qui vient d'être dit, c'est qu'en fait, vous savez, quand vous êtes embauché quelque part, vous faites une sorte d'équilibre entre les contraintes et le salaire. Mmh. Et là, cet équilibre, il est monté d'un cran. Et moi, je voyais mes confrères ou consoeurs dans la grande distribution, par exemple. Ils me disent, j'ai beaucoup de mal à trouver des gens qui veulent bien travailler, par exemple, tous les samedis. Mmh. Dans l'hôtellerie-restauration, on voit ça. Donc, je pense que c'est pas forcément un phénomène de jeunes qui veulent travailler ou pas travailler. Mais en revanche, ils ont découvert une nouvelle forme d'équilibre de vie auquel ils n'entendent pas renoncer, sauf si ça vaut le coup. Et pour que ça vaille le coup, il n'y a pas que le salaire. Il y a aussi le sens du travail, il y a son intérêt, il y a comment fonctionne l'entreprise, quels sont ses engagements extra production, si vous voulez. Et que ça perturbe, parce qu'effectivement, comme disait Dominique, on n'a pas été élevé comme ça.
Ouais.
Et donc, il faut revoir nos schémas et les revoir vite.
Mais comme le disait Dominique et Julien Leclerc aussi d'ailleurs, effectivement, la vraie question qui se pose, c'est est-ce que c'est pas eux qui ont raison plutôt que génération d'après. Mais du coup, la question, c'est est-ce que l'entreprise est en train de changer dans ce sens-là, ou est-ce qu'il faut beaucoup plus de temps pour qu'elle sorte de cet engourdissement et qu'elle change réellement.
En fait, il y a deux choses dans votre introduction. Vous avez dit quelque chose de très juste, à savoir que la vie privée a surgi dans la vie professionnelle.
Ouais.
Et vous vous souvenez qu'au moment du premier confinement, on disait l'inverse. On disait la vie professionnelle a surgi dans la vie privée. Ben là, on est un peu dans l'autre chose. Donc, ce nouvel équilibre vie privée professionnelle, il est assez pris. Après, l'autre chose, est-ce qu'ils ont raison ou pas? Est-ce que les entreprises s'adapteront? Moi, je pense que c'est une évolution plutôt positive des choses. Et la deuxième chose, c'est que les entreprises, elles vont devoir s'adapter, mais qu'il faut qu'aussi cette génération, et ceux qui cherchent un emploi, qu'ils refusent ou qui font ce qu'on appelle le ghosting, c'est-à-dire que les gens qui se présentent pas aux entretiens, comprennent que les entreprises vont sans doute évoluer, mais que ça va être long, parce que vous changez pas un modèle comme ça. Parce que vous changez tout votre modèle. Comment les gens sont managés, comment les gens sont recrutés, comment les gens sont évalués, comment les gens sont reconnus, etc., etc. Ou comment les gens c'est organisé. Et donc, ça va être un peu long comme transformation. Mais je pense, en revanche, que les entreprises, certaines ont pris le pas et sont en train vraiment de se remettre en cause. Et d'autres ne le font pas, mais vont être forcés de le faire. Sinon, ils ne trouveront pas les collaborateurs et donc les compétences dont ils ont besoin.
Le fameux sondage de la DARES que je citais tout à l'heure en introduction, qui dit que en gros 43% des salariés pensent que les conditions de travail sont mauvaises et 36% ont des prétentions salariales qui sont supérieures. Il y a aussi un autre chiffre, moi, qui m'a beaucoup interpellé. C'est pour vous aussi, Julien Leclerc, qui dit que 71% des entreprises, pour l'instant, n'ont pas augmenté les salaires et que 81,8% de ces mêmes entreprises n'ont pas modifié les conditions de travail. Est-ce que vous l'avez fait, Julien Leclerc? Est-ce que ou en tout cas, est-ce que vous êtes dans cette démarche-là de vous dire « Alors, il faut que je puisse donner quelque chose d'autre, en fait, pour attirer les gens, et donc peut-être que j'essaye de changer de paradigme. » Est-ce que vous êtes dans cette réflexion ou pas?
Oui, on est obligé. Benoît vient de le dire avec beaucoup de justesse. Si on ne le fait pas, si on ne se remet pas en question, si on ne se transforme pas, on va de toute façon devant de gros problèmes. Vous avez parlé de monde d'après. On doit l'inventer, le monde d'après. Moi, j'ai la conviction que l'entreprise doit être le moteur de cette transition sociétale-là. On a une capacité à se transformer qui est quasiment unique dans la société. Les entreprises bougent beaucoup plus vite que le reste de la société. Toutes les personnes qui travaillent autour de l'entreprise, économistes, philosophes, sociologues le disent. On est capable d'innover, on est capable d'être beaucoup plus mobile. Après, ça nous demande à nous, hommes et femmes qui les dirigeons, d'être très souples, d'être inventifs, d'être créatifs, de nous remettre en question en permanence. Et c'est vrai qu'il y a des moments où, quand vous êtes dans des journées de recrutement, où déjà vous galérez pour avoir du monde et où vous avez des candidats qui se pointent pas, c'est un peu compliqué, mais on est obligé et on doit être inventif. C'est comment attirer, comment fidéliser aussi, parce que le salaire peut être un bon outil pour attirer, mais c'est pas forcément le meilleur outil qui soit pour fidéliser, parce que sinon ça veut dire qu'il suffirait qu'un concurrent arrive avec une offre un peu supérieure pour qu'il débauche vos équipes. Donc on est dans des grandes réflexions, notamment au centre des jeunes dirigeants en ce moment, sur des expérimentations autour de la semaine de 4 jours, sur les congés limités, sur des aménagements horaires pour permettre aux gens de pas avoir des réunions trop tôt le matin ou trop tard le soir pour s'occuper des enfants. Enfin, on est hyper challengé sur ces choses-là. Encore une fois, je pense que c'est l'évolution naturelle de la société, qu'on doit l'accepter, qu'il y a sûrement aussi des opportunités à y trouver quand on est dirigeant d'entreprise. Maintenant, j'entends que ce soit pas facile, mais il y a un truc très factuel, c'est qu'en ce moment, dans à peu près tous les villages, toutes les villes et tous les villages de France, vous avez d'un côté des gens qui n'ont pas de travail et de l'autre côté des entreprises qui cherchent de la main d'œuvre. Donc soit on est de droite et on dit c'est parce que les chômeurs veulent rien faire, soit on est de gauche et on dit c'est parce que les patrons payent n'importe comment, soit on a un regard un peu factuel et on se dit mais en fait c'est multifactoriel et on essaye de trouver des solutions.
Benoît Serre, on a parlé 1000 fois ensemble de télétravail, notamment au cours de ces 18 mois, ces 2 années qui viennent de s'écouler, mais moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est inversé au fond et que désormais, les salariés ont le droit et le fond d'arriver vers l'employeur en disant « Alors, je serais ravi de travailler chez vous, mais autant que vous le sachiez tout de suite, pour moi, c'est 2 jours de télétravail par semaine.
» Alors, bon, il y a 2 choses. D'abord, on estime aujourd'hui qu'il y a à peu près 20% des salariés qui sont en télétravail partiel. Avant la crise, c'était 3. Donc, je pense qu'on est rentré, pour le coup, sur cette question-là, dans un nouveau monde et que le télétravail est presque derrière nous. C'est le travail hybride. Les gens ne conçoivent pas, quand ils ont des métiers qui le permettent, ce qui représente quand même aujourd'hui que 40% des salariés en France, de ne pas avoir de télétravail. Mais je suis un peu inquiet de cela parce que je pense qu'on mange notre pain blanc sur le sujet. Parce que pour le moment, les accords de télétravail ou les chartes, peu importe, ils s'appliquent sur des gens qui sont dans l'entreprise pour la plupart. Donc ils ont leur réseau, ils ont leurs copains, ils ont leur... Bon. Demain, on va voir arriver des candidats qui vont nous dire « Mais moi, dans l'entreprise d'où je viens, j'avais 3 jours ». Votre accord, il prévoit 2 jours. Mais ça, c'est très bien. Mais moi, je veux garder mes 3 jours. Donc, il va falloir trouver un modèle de régulation. Et pour le coup, je sais pas si Julien fait le même constat, mais c'est clairement une question qu'on a en recrutement aujourd'hui. C'est quasiment une des premières. Est-ce qu'il y a du télétravail chez vous? Et quand il n'y en a pas, on sent qu'on va avoir du mal.
Est-ce que c'est la première question qu'on vous pose, Julien Leclerc, en entretien?
Pas la première, mais ça arrive, évidemment. Donc, de toute façon, on a des nouvelles questions un petit peu comme ça. Moi, j'ai 2 activités. J'ai une agence où on fait des magazines de cuisine notamment. Et donc, il y a beaucoup de télétravail. Après, j'ai un resto à côté. Donc, j'ai entendu Benoît en parler tout à l'heure. C'est un petit peu plus compliqué de télétravailler. Mais oui, il y a des questions complètement nouvelles. Et encore une fois, on n'est pas forcément armé, en fait, quand on est en face pour y répondre.
Mais alors, justement, je pense, 2 cas d'école, Julien Leclerc. Il y a celui qui travaille et qui fabrique les magazines, effectivement, et qui vous dit, moi, je vous préviens, c'est 3 jours par semaine de télétravail. Est-ce que vous lui dites, organise-toi comme tu veux, l'important, c'est que le boulot soit fait, ou est-ce que ça vous laisse un peu interdit au début? Et question pour votre restaurant, on aura quelqu'un qui travaille dans la restauration collective dans un instant au téléphone. Même question pour le restaurant, quand quelqu'un vous dit oui, non mais vous êtes gentil, mais moi j'ai besoin de au moins 2 soirées par semaine et le samedi c'est pas possible, est-ce que les bras vous en tombent ou est-ce que vous dites bon, il va falloir qu'on tourne avec les emplois du temps parce que sinon je m'en sortirai jamais en fait?
En fait, on n'a pas le loisir que les bras nous en tombent. On a un objectif qui est de recruter, qui est d'attirer. Après, on prône beaucoup de valeurs aussi. Quand on est dirigeant d'entreprise, on a énormément parlé de bienveillance, d'amour, de gentillesse, de plein de choses. Chacun met les mots qu'il veut. Moi, j'essaye toujours par nature de comprendre pourquoi la personne me demande des choses. Donc, si elle a besoin de 3 jours chez elle, moi, on a plutôt posé un accord pour reprendre. Moi, je fais reprendre en fait sur l'agence mes salariés en présentiel mi-novembre pour finalement leur demander de rentrer chez vous 3 semaines plus tard. Après 2 ans de télétravail, donc on avait négocié un retour en 3 jours en présentiel. Si quelqu'un me dit c'est pas du tout possible, il faut que je comprenne pourquoi. Parce qu'il y a aussi un impératif d'équité et de justice, quoi. Si je lui laisse plus de télétravail, pourquoi lui par rapport à d'autres? Il y a peut-être des bonnes raisons. Sur le resto, j'ai un exemple assez concret à vous donner. Moi, j'ai recruté un chef. Donc, c'est une grande leçon d'humilité, hein, quand je connaissais pas les métiers en tension à ce point-là. Donc, en milieu d'entretien, je dis au chef, merci, c'était vachement sympa. Et je continue à débriefer. Je dis, j'ai passé un bon entretien. Et puis, il me coupe et il me dit, moi aussi, j'ai passé un bon entretien, je vous rappelle. J'étais un peu vexé quand même, je me dis mais qu'est-ce qu'il me dit lui? Et puis en fait je réfléchis à l'intérieur et je me dis mais il a raison, on est cinq dessus et moi j'en ai pas d'autres. Et en fait j'avais un problème, c'est que j'avais quelqu'un en face qui lui proposait de bosser que les midis. Et donc et moi je pouvais pas, il faut absolument qu'il vienne le soir. Et donc je pouvais pas répondre, j'ai réfléchi, je suis rentré chez moi et le lendemain je l'ai rappelé, je lui ai dit écoutez, j'ai besoin de vous le soir mais en revanche je peux vous proposer un week-end de 3 jours. Parce que l'autre lui proposait pas, hein, donc finalement je l'ai eu comme ça. C'était important, on essaye d'adapter, il y a des choses auxquelles on peut répondre positivement et peut-être que si on ne peut pas, on essaye d'être créatif et de proposer autre chose.
Intéressant exemple, vraiment intéressant. Franck, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute Franck.
Eh bien, écoutez, moi, je suis chef gérant en restauration collective depuis une trentaine d'années. Je viens d'être licencié économique pour des raisons économiques. En tous les cas, c'est ce qu'on me disait. Je suis quand même sur un secteur d'activité qui est en tension, comme vous le soulignez tout à l'heure. Et maintenant, j'ai décidé de plus prendre de CDI, et c'est en général ce qu'on me propose. D'avoir la souplesse de pouvoir trouver un emploi qui me convienne, parce qu'effectivement, de surcroît en restauration collective, on a des horaires qui sont très compliqués, parfois des horaires avec des amplitudes horaires de 12h30, hein, on est dans la légalité, et c'est assez difficile, donc il me reste 4 ans et demi avant la retraite, et je vais faire un choix, non pas de jeunes comme je l'entendais en début d'émission, mais plutôt de personnes avisées et qui a subi tout un tas de contraintes dans son métier pendant plus de 30 ans, et qui aujourd'hui retrouve exactement les mêmes, sauf dans certaines petites sociétés qui essayent de s'adapter un peu plus, mais on reste la valeur d'ajustement du système de nourrir des personnes âgées en maison de retraite, où c'est surtout dans ce domaine que c'est en tension, hein, puisque tout le monde en restauration collective tend vers des restaurations ou en scolaire ou éventuellement en entreprise, parce que les conditions de travail sont autres, et bien sûr qu'il n'y a pas d'horaire, de coupé, de jours fériés.
Est-ce que ça veut dire, Franck, est-ce que ça veut dire qu'à un autre moment, alors il vous reste 4 ans à travailler, donc je vois aussi le choix que vous faites parce que vous êtes dans la fin de votre vie professionnelle, mais est-ce que vous vous dites qu'à un autre moment, donc avant la pandémie, avant que le secteur soit autant en tension qu'il l'est aujourd'hui, vous n'auriez jamais osé le choix du refus de CDI, qui est quelque chose qu'on peut se permettre aujourd'hui, ou pas?
C'est deux conditions qui me le permettent aujourd'hui. C'est un licenciement économique, même si je sais que j'en profiterai pas énormément, si profiter est le terme le mieux choisi. Mais je suis dans un secteur où il y a énormément de tensions. De toute façon, on me permettra pas de rester chez moi en disant que je trouve pas de travail, c'est évident. Après, c'est moi qui choisirai les contraintes. C'est là c'est là où le bât blesse. Par contre, effectivement, comme vous le disiez, donc, plus jeune, avec des enfants et une famille à élever, j'aurais pas fait le choix de ne pas savoir exactement où je vais. J'étais plutôt quelqu'un d'assez droit dans ma façon de travailler et d'avoir besoin de sécurité du CDI, quoi. Aujourd'hui, je le vois vraiment différemment. Oui, c'est l'âge qui joue, mais c'est aussi ces conditions de travail qui n'ont pas évolué en 30 ans réellement, quoi.
Merci beaucoup, Franck. Merci beaucoup. Benoît Serre, sur le témoignage de Franck. Et là aussi, je reviens à la question que je lui posais là. On est dans des métiers où on a le choix, on a ce choix-là, on peut se dire, attends, moi je veux la souplesse. Donc je vais choisir les CDD parce que pour l'instant, de toute façon, ça marche, en fait. Ouais, ça change aussi beaucoup de choses pour vous, de l'autre côté de la barrière.
Ouais, le témoignage de Franck, il est hyper intéressant. Parce que, à la fois pour des raisons de proximité de sa fin de carrière professionnelle, mais on le trouve à d'autres niveaux, pour les métiers rares, hyper en tension, où les gens savent, de toute façon, ils vont trouver.
Ouais.
Et donc, les CDI les intéressent beaucoup moins. Parce que d'abord, ils perdent en liberté, ils peuvent faire des CDD puis se faire 2 mois de vacances, parce qu'ils savent, de toute façon, ils trouveront. Et ça, c'est valable à toutes les générations. On le connaissait beaucoup dans les métiers rares, les métiers digitaux, etc. Maintenant, on le connaît partout. Parce que comme la reprise, pour le moment, est beaucoup plus forte qu'on l'avait imaginé, et qu'en plus, vous avez une espèce de distorsion entre les compétences recherchées et les compétences proposées, parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'on a encore un paquet de chômeurs. Et que c'est, ça, c'est structurel. C'est parce que c'est des gens qui n'ont pas les compétences des entreprises de recherche. Mais ceux qui, comme Franck ou d'autres, ont les compétences des entreprises de recherche, ils savent que le marché, c'est un marché d'employés. Autrement dit, c'est eux qui décident. Alors, pour nous, c'est sacrément compliqué. Parce que, d'abord, quand on crée un CDI, c'est parce qu'on n'a pas créé un CDD. Ça me paraît une lapalissade, mais c'est vrai. Et que donc, on a besoin plutôt de s'inscrire dans le temps avec les gens. Et donc, il faut revenir à ce que disait Julien, c'est-à-dire que les gens s'engagent pas uniquement pour des histoires de salaire ou parce qu'il faut absolument trouver un job, il y en a qui le font, mais aussi parce que ça a du sens, parce que c'est adapté à leur vie, parce qu'ils aiment bien l'entreprise, parce qu'ils aiment ce métier, parce qu'ils trouvent que l'entreprise a des engagements. Moi, quand je rencontre des jeunes, sur 20 questions, j'en ai 18 sur l'engagement pour la planète de l'entreprise dans laquelle je suis. Et j'en ai 2 sur le salaire et le rang de carrière. Avant, c'était presque une proportion inverse. Donc, c'est le témoignage de Franck, il est très révélateur de ce qui est en train de se passer. Et donc, de la question centrale qui est le modèle CDI, qui est le modèle structurant du marché du travail, demeure-t-il encore aujourd'hui le bon modèle ?
Émilie, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute.
Merci beaucoup de me recevoir. Moi, j'ai une vraie question aussi dans l'autre sens. C'est qu'est-ce que les entreprises proposent ? Parce que, effectivement, les candidats sont très compliqués. Enfin, très compliqués. Ont des exigences importantes.
Vous travaillez en cabinet de recrutement pour expliquer aux gens qui nous écoutent, Émilie.
Oui, absolument. Okay. Et donc, du coup, on a une grosse difficulté à capter des candidats, c'est vrai. Mais par contre, on a aussi du mal à trouver des entreprises qui captent les candidats. C'est-à-dire que qui se permettent aussi de proposer des choses qui sont autres que le salaire, machin, etc. Et qui proposent des... Mais je pense qu'il faut aussi une vraie... comment dire, un vrai équilibre entre les deux. Le candidat n'a pas tous les droits, les entreprises n'ont pas tous les droits non plus, et trouver un juste milieu, c'est ça qui est compliqué aujourd'hui, je trouve.
Merci beaucoup, Émilie. Et quand j'entends Émilie, Julien Leclerc, je repense à l'anecdote que vous nous avez livrée il y a un tout petit instant. On a l'impression, au fond, qu'on est dans la négociation entre l'un et l'autre, en fait. Ce que peut offrir le salarié, ce que peut offrir l'entreprise. Si je te donne ça, toi tu me donnes ça, c'est quand même très très inédit. En tout cas, dans les métiers en tension, parce que il y a beaucoup de gens qui nous écoutent en ce moment, qui cherchent et qui ne trouvent pas de travail. Mais est-ce qu'on en est au stade où il y a une espèce de négociation comme ça entre les deux?
Oui, alors je suis peut-être un bisounours, mais j'ose espérer que c'est un peu plus romantique que ça, quand même. C'est une rencontre, c'est un recrutement, et donc je pense que c'est pas qu'une négo, c'est aussi un feeling. C'est une envie de travailler ensemble. Après, cette envie de travailler ensemble, elle se crée par nous. On doit travailler absolument sur ce qu'on appelle notre marque employeur. On doit être attirant pour attirer. Et donc pour être attirant, vous savez, nous le CJD s'est monté sur une conviction, c'est que le patronat devait être réhabilité, c'était il y a plus de 80 ans, et pour réhabiliter la fonction de patron, il fallait qu'on soit exemplaire. Et je crois que si on veut être attirant, il faut d'abord que les équipes qui travaillent chez nous soient heureuses de travailler chez nous, le plus possible. Donc si nos équipes sont épanouies, elles en seront les meilleurs ambassadeurs, et on a quand même plus de facilité à recruter si ça se sait, et c'est vrai pour toutes les tailles d'entreprise.
Mais qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui, Julien Leclerc, que vous ne proposiez pas avant, par exemple? Qu'est-ce que vous mettez sur la table? Ou peut-être que vous le mettez sur la table parce que vous n'êtes plus étonné qu'on vous le demande. Donc qu'est-ce que vous mettez sur la table aujourd'hui que vous ne mettiez pas sur la table il y a encore 3 ans?
Bah, plus de souplesse. J'ai entendu parler de liberté tout à l'heure. C'est très vrai. C'est une aspiration d'abord qui est très entrepreneuriale. Nous, elle nous parle, cette aspiration à la liberté. Donc, on peut pas trop critiquer les collaborateurs qui demandent ça. Donc, encore plus de souplesse sur l'organisation du poste, sur les horaires, sur les jours de repos, sur les à côté. C'est peut-être aussi, je sais pas, plus d'échecs cadeaux plus importants. On touche un peu à la rémunération, mais pas que. C'est en fait plus d'attention. Plus d'humain, tout simplement, plus d'écoute, plus d'empathie, plus de compassion. Je crois que c'est un petit peu tout ça en même temps. Donc plus de remise en question de notre côté et en même temps essayer de continuer à faire les différences pour attirer. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à ce que quelqu'un nous choisisse nous plutôt qu'un concurrent. Donc c'est quelle est notre différence? Et là-dessus c'est de plus en plus difficile. Là il y a un vrai avant après Covid. Moi je pense, je prends l'agence par exemple où on était en télétravail. J'ai la prétention de penser qu'on est vraiment une boîte où il fait hyper bon travailler. Moi, mon agence, elle est située dans le sud-ouest, dans un petit village qui s'appelle Astafort, cher à Francis Cabrel. Et on prône un gagner moins mais vivre mieux depuis très longtemps. Et aujourd'hui, on arrive à attirer parce que ce gagner moins mais vivre mieux, il a du sens, surtout le mieux vivre. Et j'ai la prétention de penser qu'on est très heureux dans cette boîte, en tout cas qu'il y a quelque chose d'assez fort. Mais néanmoins, Après deux ans de télétravail, très souvent, je me dis, mais quelle est ma différence? Je sais le faire dans le quotidien, je sais proposer un quotidien plus épanouissant, plus humain, plus tendre. Moi, j'ose ces mots-là, je pense que la tendresse a sa place dans le monde de l'entreprise. Mais quand c'est en télétravail et qu'on se voit très peu, j'avoue, je sais pas, j'ai plus de mal à identifier nos différences et donc mes points forts pour attirer, fidéliser mes équipes.
Benoît Serre, on entend ce hiatus qu'il peut y avoir dans la tête de Julien Leclerc. Et ce que je vois aussi, je trouve extrêmement intéressant dans la manière dont l'entreprise est en train d'évoluer aujourd'hui, c'est que ce qu'on offre pour être attirant, enfin, il fut une époque où on mettait un baby-foot.
Voilà, oui, ça c'est un peu fini.
Voilà, c'est comme ça que c'était, ils sont contents, comme ça ils peuvent avoir une pause. Aujourd'hui, on parle d'organisation, on parle d'horaire, on parle d'à côté. En fait, on parle à l'intérieur de l'entreprise de tout ce que l'extérieur pourra rentrer, de tout ce que nos vies en fait ne seront pas gâchées entre guillemets par l'entreprise.
En fait, effectivement, comme
l'entreprise nous offre d'en sortir en fait.
Bah, comme le dit Julien, le sujet de l'attractivité il est important, mais j'ajouterais un deuxième élément qui est le sujet de la sincérité, parce qu'il y a une particularité qui est que les gens qu'on recrute aujourd'hui, non seulement ils vous évaluent à l'entrée dans votre sincérité, dans les engagements que vous avez pu prendre ou les à côté, ou les, mais surtout dans la durée. Est-ce que ça existe vraiment une fois qu'ils sont dans la place? Alors qu'avant c'était un petit peu j'attire la moue et puis les gens restent. Bon. Après, sur le deuxième point, je crois, et c'est un point très important qui est peut-être l'une des solutions, c'est une hypothèse que je formule, c'est qu'on a beaucoup travaillé depuis quelques temps autour de ce qu'on appelle généralement la qualité de vie au travail, ou tout un tas de sujets, sans vraiment s'intéresser, ou en tout cas suffisamment, au sujet central qui est la qualité du travail lui-même. Mmh. Autrement dit, on se rend compte que le niveau de fidélisation il est plus élevé lorsque les gens comprennent ce qu'ils font là, pourquoi ils sont là, en quoi ils sont un élément indispensable de, c'est pas un mot très joli, mais de la création de la chaîne de valeur de l'entreprise, et qui sont reconnus à la fois pour ce qu'ils font, mais également pour ce qu'ils sont. Et ça, c'est les sujets de liberté d'organisation dans le travail, d'autonomie, de confiance. Ça, c'est un cocktail, malheureusement, qui pour beaucoup d'entreprises est assez nouveau. Et par conséquent, elles doivent changer leur manière de, leur type de relation. Vous savez peut-être que dans le droit du travail, un contrat de travail, il prévoit le lien de subordination. Bah, tout ce qu'on vient d'évoquer avec Julien, avec vos auditeurs, et ce que je viens d'expliquer, c'est l'antithèse de la subordination. C'est la collaboration, c'est la coopération, c'est la confiance mutuelle pour faire ensemble quelque chose. Et ça, je peux vous dire que dans les entreprises, grandes, petites et moyennes, c'est un sacré choc.
Bonsoir Quentin.
Bonsoir.
On vous écoute.
Merci. Merci de prendre mon appel. Alors, moi, je vous appelle ce soir puisque j'ai entendu votre premier auditeur au début de l'émission qui parlait des jeunes et du manque d'implication dans le travail. À titre personnel, j'ai 24 ans et après avoir fait un CAP coiffure, un brevet professionnel coiffure et un BTS, métier de la coiffure, j'ai souhaité trouver du travail dans la région lyonnaise et je me suis rendu compte qu'avec mes 3 diplômes et mes 6 années d'études, je pouvais prétendre à avoir un salaire qui tournait aux alentours des 1800 euros bruts. Et mon choix a été assez rapide sur le fait de me dire que avec 1800 euros bruts, je n'aurais pas la possibilité de construire une famille, d'acheter une maison, de me projeter forcément facilement vers l'avenir. Et j'entends toutes les conditions de travail améliorées, le télétravail et autres. Mais c'est vrai que dans mon métier artisanal, souvent fait par des TPE, et ben forcément une journée de télétravail c'est compliqué. Mes clients ne vont pas venir se faire couper les cheveux à la maison. Donc mon choix a été de partir en direction de la Suisse et de trouver du travail sur la région de Genève où j'ai trouvé facilement et avec un salaire à peu près 3 fois supérieur à ce qui m'était proposé en France pour les mêmes postes. Donc j'ai perdu forcément en temps de repos, puisque les temps pleins sont plus gros en Suisse qu'en France. On perd également une semaine de congés payés, mais on gagne une qualité de vie et la possibilité de se projeter et de faire des projets de famille.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Quentin. Benoît Serre, on disait en introduction que le salaire n'est pas tout, c'est une réalité, mais le salaire ça compte aussi, et évidemment. Et Quentin, il a 24 ans, peut-être qu'ils sont pressés, les jeunes aujourd'hui, peut-être plus qu'on l'était nous, j'en sais rien. Quentin parle de fonder une famille, de s'installer, etc. Et quand les voisins sont tellement meilleurs que nous...
Le témoignage de Quentin, il est assez révélateur et juste, c'est-à-dire que effectivement, dans un certain nombre d'emplois, on a aujourd'hui un problème de salaire en France. Il faut ouvrir les yeux. Alors, la comparaison avec la Suisse, elle est un peu difficile parce que le niveau de vie moyen en Suisse est beaucoup plus élevé qu'en France, mais quand même. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement ce que disait Julien tout à l'heure, et le témoignage de Quentin, c'est la traduction de cela. C'est-à-dire que les gens prennent un travail pour un objectif de construire une vie privée, je dirais. Et c'est très heureux, et ça, c'est une évolution très positive. Mais évidemment, c'est pour ça que la question du salaire, elle apparaît pas comme juste une question d'enrichissement, mais une question de, est-ce que ça va me permettre d'avoir la vie que je veux ? Et ça, il faut reconnaître que du coup, le rapport au travail s'est un peu éloigné.
Moi, je trouve ça intéressant parce que là, par exemple, dans la vie qu'il veut, Quentin, il n'est pas en train de dire, moi, je voudrais un immeuble avec 18 appartements à l'intérieur et un château.
Il veut une vie normale.
Il veut une vie normale. Enfin,
exactement.
Voilà,
et donc, c'est pour ça que la question, notamment sur les jeunes, de la rémunération est un vrai sujet. Parce qu'aujourd'hui, on le sait très bien, alors quand vous êtes dans une grande ville, c'est encore pire. Vu ce qu'on vous demande pour avoir un loyer, vu ce qu'on vous demande... Enfin, on se connaît. Enfin, moi, j'ai des enfants de cet âge-là, c'est compliqué, quoi. Parce qu'on vous demande un tas de trucs. Et par conséquent, ils disent à l'entreprise qui veut les embaucher, non seulement vous voulez m'imposer une forme de contraintes, je suis prêt à les accepter, mais si ces contraintes-là correspondent à un salaire qui ne me permet pas de projeter la vie, pas forcément incroyable, pas une vie de milliardaire, que j'ai envie d'avoir, alors le jeu n'y est pas. Et donc, moi, je joue pas et je vais trouver des solutions alternatives. Il y a celle de Quentin, il y a celle des CDD multiples qu'on est sur des emplois très recherchés. Et c'est intéressant parce qu'en fait, on a l'impression que, pas que les jeunes d'ailleurs, les salariés, une partie d'entre eux sont en train de se ressaisir du marché du travail et le structurer comme ils le veulent eux et non pas comme on leur impose. Ça aussi, c'est quand même une sacrée différence avec avant.
Et ça veut dire donc qu'au niveau des salaires, parce que j'en reviens à mon chiffre de tout à l'heure, qui était que 71% des entreprises pour l'instant n'ont pas augmenté leurs salaires. Si on lit la presse économique ces derniers jours, on voit bien, on entend des choses qui disent oui. Les entreprises vont bien devoir finir par y aller. Je vous pose la question à vous, Benoît Serre. Est-ce que, oui, il va bien falloir finir par y aller? Parce que de toute façon, sinon, tous ces jobs en tension ne trouveront jamais preneur.
Ah bah c'est clairement une des réponses qui va devoir apparaître. La NDRH avait fait une enquête il y a quelques mois qui montrait que 46% des DRH estimaient qu'il fallait réviser les politiques de rémunération. Donc personne n'est surpris parce qu'il est en train de se passer. Alors maintenant, je pense qu'il faut aussi tenir compte du fait que la seule solution n'est pas le salaire et que derrière tout cela est posée une question plus importante qui est celle de nouvelle répartition ou d'un nouveau partage de la valeur qui passe par des outils qu'on connaît déjà. Je pense que ça, c'est la vraie question de fond. Mais en attendant, sur des bas salaires, indépendamment que les métiers soient rares ou pas, la pression est très forte, l'environnement inflationniste évidemment est de ça, et que vous savez qu'il y a énormément de branches professionnelles qui sont en train de voir comment ils vont remonter ce qu'on appelle les minima, de manière à la fois être attractif, mais ça répond aussi à une question que, je dirais, on doit se poser en France, comment se fait-il qu'on ait, en moyenne, par rapport à d'autres voisins européens, des salaires moins élevés, même si c'est vrai qu'on a un niveau de prise en charge sociale qui est largement supérieur. Donc quand vous faites le parallèle des deux, on est un peu éloigné, mais c'est effectivement un sujet, et de toute façon, on voit bien que un certain nombre de salaires vont devoir évoluer, non seulement pour attirer les gens, mais aussi pour les garder, et surtout sous la pression de ce qui est en train de se passer en ce moment, notamment sur le prix de l'énergie, enfin le prix de la vie de tous les jours, qui augmente, quoi qu'on en dise.
Julien Leclerc, vous, par exemple, dans votre entreprise numéro 2, c'est-à-dire celle qui est dans la restauration, est-ce que déjà vous avez augmenté les salaires? Est-ce que c'est dans les tuyaux? Est-ce que vous en êtes de ce point de vue-là?
On essaye de faire au mieux. Moi, je suis évidemment favorable et j'entends bien tout ce qu'on dit. On s'est fait un petit peu remonter les bretelles dans la restauration par Elisabeth Borne elle-même qui nous a expliqué qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Maintenant, il y a aussi une réalité, c'est que mon café à Lectoire, il est à 1,40€ et que si je le passe à 1,50€, j'en vends plus. Donc, il y a un modèle économique quand même, notamment dans la restauration, où les marges moyennes sont de 6 à 7%. Le delta, la marge de manœuvre sur les salaires est quand même réduite maintenant. Moi, je qui venais en plus d'un autre univers, j'ai quand même été marqué par le fait qu'une serveuse ou un serveur, notamment en saison, fait en moyenne 12 km par service, doit être bon commerçant, doit être hyper organisé, hyper rigoureux, tout ça pour un SMIC. Donc, effectivement, on doit se remettre en question. Maintenant, je pense que, c'est pas simple, parce que si c'était aussi facile que ça, je vous assure que faut qu'on s'éloigne un peu des caricatures des patrons. C'est pas par mauvaise volonté qu'on le fait pas. Donc, c'est pas évident. Et deux, je suis quand même convaincu que c'est une réponse à la fois partielle et temporaire. C'est-à-dire que quand vous donnez 100€ d'augmentation, un an plus tard, vous avez le même problème, parce que ces 100€, on va les dépenser vite, d'autant plus.
Mais c'est pas une raison pour pas avoir donné les premiers 100€.
Non, mais je suis complètement d'accord et je voudrais pas donner l'impression de pas vouloir le faire. Évidemment qu'on est dans des réflexions et en fait, ce qu'on fait, c'est que sur des postes où on sait un petit peu clé, on va, moi j'ai plutôt tendance à payer plus que mes collègues, notamment mon chef ou mon responsable de salle, mais je peux peut-être pas le faire pour tout le monde, quoi. Après, je pense vraiment qu'il est important que on travaille aussi sur les à côté, sur le confort du travail, sur le sens du travail. Tout à l'heure, Benoît parlait de cette quête de sens et des engagements sociétaux de l'entreprise. On est hyper questionné là-dessus, même au resto. Donc, toute population et tous âges sur OK, mais pourquoi je suis chez toi plutôt que chez quelqu'un d'autre? Et qu'est-ce que tu fais pour la société, par exemple?
Édouard, bonsoir.
Bonsoir.
On reste dans le même domaine. On vous écoute, Édouard.
Bonsoir. Merci, en tout cas, de la qualité des intervenants et puis du sujet. Je voulais apporter mon témoignage. En fait, moi, avant le Covid, j'étais cadre responsable dans un restaurant d'une cinquantaine de collaborateurs. Et ce problème de recrutement chaque semaine, de voir 15 personnes qui finalement ne viennent pas, etc., était un peu lourd. Donc, j'ai décidé de quitter ce domaine-là. Je suis actuellement auditeur hygiène qualité pour une société internationale. Donc, je rencontre plein de restaurateurs, petites, grandes villes, qui ont toujours le même problème. Et j'ai aussi actuellement un projet de restaurant avec ma conjointe. Et en fait, on est tous les deux, on a 28 et 25 ans, et on a conçu le projet pour essayer d'anticiper ces problèmes-là. On aimerait pouvoir avoir plein de personnes et tirer tout le monde vers le haut, les former, etc., et créer une belle ambiance. Mais au vu des contraintes actuelles et des problématiques, en fait, on doit réduire un peu notre projet et puis se dire, il faut que s'il y a un problème, on puisse être tous les deux et pouvoir continuer tout seul, quoi.
C'est parce que vous vous dites, moi, qu'est-ce que je pourrais bien offrir de plus, en fait, si je me retrouve en face de la même problématique de recrutement que celle que je connais et que connaissent tous mes voisins, en quelque sorte.
C'est ça, exactement, de comment on trouve une solution. Alors, il y a des avantages en nature ou autre, mais que ce soit, comme vos intervenants et différents témoignages le disaient, il n'y a pas que le salaire, il n'y a pas que les avantages en nature. Et c'est vrai qu'on est perdu, alors que nous, on a un projet qu'on va entreprendre là assez rapidement. Et en fait, on se dit, on se lance dans quelque chose, espérons que le brouillard se dissipe, quoi.
Merci beaucoup, Édouard, Benoît Serre. C'est fou quand même de se dire, quand on crée une entreprise comme ça, là, en l'occurrence dans la restauration, de se dire, pourvu que le brouillard se dissipe, ça veut dire pourvu que j'arrive à embaucher du monde.
Oui,
on se dit que c'est un peu le monde à l'envers, quand même.
Bah, c'est un peu le monde à l'envers par rapport à ce qu'on connaît depuis 30 ans en France avec un chômage de masse, où la question, c'est de dire, pourvu que je trouve des clients, maintenant, c'est pourvu que je trouve des gens pour servir mes clients. Donc c'est une évolution dans ce sens-là, c'est plutôt pas mal, mais il faut pas perdre de vue qu'on est dans un phénomène très conjoncturel avec une reprise très forte, et que c'est le moment d'investir dans des sujets plutôt structurels, tout ce qu'on vient d'évoquer, mais également une meilleure préparation des jeunes, et pas que des jeunes, en termes de formation au métier qu'on recherche. Ça, c'est le sujet structurel. Sinon, je crains qu'on garde des métiers rares et que la complexité dure.
Il y a une dernière question, c'est celle de Youssef. Pardon Youssef, je vais la prendre dans ma voix, votre question, parce qu'il nous reste 40 secondes à peine. Il a 27 ans, Youssef. Il dit, les jeunes d'aujourd'hui souhaitent devenir indépendants. Nous avons l'exemple de nos parents qui ont travaillé pendant 30 ou 40 ans sans progrès réellement. Donc nous, ce qu'on veut, c'est être indépendants. Et ça aussi, c'est ce qui a tourné sur le marché du travail, Benoît Serre, peut-être.
Pour connaître en 40 secondes que ce que dit Youssef est très juste sur un plan sociologique. La génération jeune d'aujourd'hui, elle n'a pas forcément une image du travail, de la relation
entre
parents et du salariat très positive avec l'entreprise. On sait que depuis une quinzaine d'années, le nombre de burn-out explose. Enfin, et je pense que ça, c'est une question de société qui est posée, qui est quelle image on a du salariat, du travail, de la contrainte. Comment on fait pour retrouver un équilibre positif entre un travail positif et une vie réussie? Ça, c'est un enjeu de société. C'est pas qu'un enjeu d'entreprise, mais comme le disait Julien, l'entreprise fait partie de la solution, clairement, à elle, de faire bouger les lignes plus vite que l'État, souvent.
Voilà, ce qui nous ramène à la première question de notre
Exactement.
Auditeur. Effectivement, on a bien bouclé la boucle. Merci beaucoup. Merci à vous. Vraiment à vous deux. Merci à tous pour vos très nombreuses questions.